Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté.
Bonjour Luc.
Oui, bonjour Guillaume.
Alors Luc, il se passe beaucoup de choses sur la planète Terre. Les relations internationales sont vivantes et vibrantes. Alors commençons par, appelons ça, comment dire, les frénémies, la France et les États-Unis qui ont été alliés pendant la Révolution américaine et à peu près pas vraiment depuis. Là, il y a une rencontre importante entre le chef de l'État français et le chef de l'État américain.
Ouais, mais ça risque d'être particulièrement intéressant parce que M. Biden essaie du mieux qu'il le peut de rappeler à M. Macron à quel point il a besoin de lui et à quel point la France et les États-Unis ont souvent, du moins c'est ce qu'il prétend, marché main dans la main. Le président français aime bien rappeler qu'ils sont alliés, mais pas forcément alignés. Et jusqu'ici, un sourire dans les derniers mois quand M. Macron dit, vous savez, la confiance, parce que c'est ce que demande M. Biden. La confiance, c'est un peu comme une relation amoureuse. Il faut des mots, il faut des preuves, ça s'entretient, ça se mérite la confiance. Et bien entendu, ben il évoquait à mots couverts ce premier dossier dans lequel est impliqué M. Biden, c'est-à-dire qu'il y a ce lucratif contrat de fabrication de sous-marins qui finalement, à la toute dernière minute, en raison de l'implication américaine dans le dossier, a été transféré.
Donc, oui, les Français, les Français se sont fait jouer là comme des enfants d'école là, dans ce dossier-là. Là.
Ouais, voilà. Puis M. Biden ne s'est jamais excusé de la chose, mais il avait dit en anglais, c'est un dossier qui a été clumsy. On a bâclé. C'est un travail bâclé. Ça aurait dû se faire mieux que ça. Sous-entendu, finalement, on a coupé l'herbe sous le pied de la France, puis on leur en a même pas parlé avant, ni même probablement pendant. Cela dit, depuis ce temps-là, M. Macron rappelle régulièrement aussi au président Biden que pendant l'absence des démocrates au pouvoir, entre Obama et Biden, finalement, il y a eu M. Trump et que il y a eu un vide à combler sur la scène internationale. M. Trump ne s'est jamais caché du fait qu'il souhaitait que les Américains redeviennent, alors là, mais totalement isolationnistes. Devant l'ONU, on s'en rappelle, chacun chez soi, le monde s'en portera mieux. Ça semblait pas très réaliste, mais pendant ce temps-là, M. Macron a dit, il y a un vide sur la scène internationale, je vais combler ce vide. Et c'est lui qui a tenu un rôle qu'habituellement le président américain, tout le monde, en tout cas Barack Obama, aimait bien se réserver, celui de conciliateur, celui de rassembleur, de meneur, mais de meneur capable de jouer en équipe. Alors, M. Biden revient à la charge, lui, depuis qu'il est en poste, mais M. Macron ne se laissera pas nécessairement déplacer, surtout que les objectifs de la France et ceux des États-Unis ne concordent pas toujours. Donc, il y a un peu cette bataille, si on veut, cette rivalité de leadership ou de meneur, mais en même temps, il y a aussi la nécessité, sur certains enjeux, de travailler d'un commun accord main dans la main.
Oui, parce que bon, la France vit un peu sur du vieux gagné, ça fait un petit bout de temps, Louis XIV, mais encore faut-il, pour pouvoir jouer ce rôle sur la scène internationale, avoir soit la force militaire ou le portefeuille pour être là. Mais le génie de Biden a été, dans la crise ukrainienne, moi c'est ce que j'ai vu, de jouer une carte plutôt humble, de reconnaître qu'il a besoin de la contribution notamment de l'Europe, parce que la crise ukrainienne, juste avec les Américains, ça fonctionnerait probablement pas. Alors, on peut imaginer que ça va être Macron qui va être traité avec tous les égards, ne serait-ce que pour, et c'est un langage qui parle très fort à la France, parler à cet héritier d'une grande république. C'est pas juste un président ordinaire qu'on soit là.
Puis, mine de rien, les intérêts se complètent, j'ai envie de dire, ou les objectifs par rapport à l'Ukraine. C'est que ça a laissé la part belle à M. Macron pendant longtemps. Faut dire aussi qu'il parle beaucoup souvent au nom de l'Union européenne en même temps qu'il parle au nom de la France. Mais il a dit, par rapport à la Russie, on peut pas se comporter comme les Américains. C'est ce qu'il dit à mots couverts ou dans des formules plus diplomatiques. Nous, on a intérêt à s'entendre éventuellement avec la Russie. Alors, il a toujours gardé ouverte cette porte pour des négociations. Ramenons les joueurs autour de la table. M. Biden, ça lui laissait le rôle là-dedans. Tu disais, oui, j'ai besoin des autres. Il a insisté sur l'OTAN, il a insisté sur l'Union européenne. Mais en même temps, ça lui permettait, ne serait-ce qu'en parole, de condamner de manière plus virulente ce que faisait M. Poutine. Et ces jours-ci, ce qu'on voit, par l'intermédiaire des généraux américains, c'est un appel au retour à la table de négociation. Ce qu'on a dit à M. Zelensky, c'est, écoutez, vous êtes dans le siège du conducteur, mais pas pour une victoire convaincante. Plutôt pour vous asseoir autour de la table et profiter de la position de faiblesse actuelle de la Russie. Donc, probablement que M. Biden et M. Macron vont avoir le temps de discuter de ce volet-là tous les deux, entre un toast ou deux ou une performance de John Batiste, qui est l'artiste invité pour le dîner d'État.
Oui, et c'est toujours des choses assez grandioses. Luc, nous voulons t'entendre sur la situation en Chine, ces manifestations qui surprennent pas juste dans leur existence, dans leur ampleur, dans les slogans et les discours. On entend rarement des manifs en Chine, des manifestants crier « liberté ». Est-ce que c'est véritablement là exagéré par des Occidentaux qui voient des lueurs d'espoir de ce qu'ils désirent, ou il y a véritablement quelque chose qui se passe là en Chine?
Écoute, quand on met la main sur l'information disponible, et ce sont certains services de renseignement qui se croisent dans ce dossier-là, il semble que le mouvement soit bel et bien réel et qu'on n'ait pas vu ça depuis la fin des années 80, le tournant des années 90. Ça survient à un drôle de moment pour la Chine, vers qui souvent les projecteurs sont braqués quand il est question, on vient de le dire, de l'Ukraine et de la Russie, mais quand il est question du respect des droits humains. Ça s'invite souvent à cette question-là. Ce dont nous font part les médias occidentaux qui couvrent le dossier jusqu'à maintenant, c'est qu'on en est déjà à intervenir contre des journalistes étrangers. On peut penser de part et d'autre qu'il y a un brin de propagande ou de récupération, mais la Chine n'aime pas ce qui se déroule présentement et n'aime surtout pas que l'Occident ou des médias occidentaux puissent exposer une répression à l'endroit, pas seulement de la population chinoise ou des ressortissants chinois, mais à l'endroit également des médias étrangers.
Ouais, et Luc, je disais d'entrée de jeu dans l'émission, et comme tu es un grand fan de Kennedy toi aussi, le discours inaugural de Kennedy, c'est bon à toutes les sauces et c'est quelque chose d'éternel. Tu te souviens de cette phrase où il dit « Ceux qui ont bêtement essayé de conquérir le pouvoir en essayant de chevaucher le tigre vont finir dans le ventre du tigre. » Et c'est peut-être ça qui doit terroriser présentement les autorités chinoises. Restons sur les États-Unis. C'est fou parce que les élections de mi-mandat, c'est probablement les plus longues élections de l'histoire. On est encore là-dedans. Et là, le vote par anticipation pour le deuxième tour de la Géorgie, pour ce siège qui reste en Géorgie, commence. Alors, rappelle-nous qui sont les candidats en cause et qui, à date, là, a fait une bonne campagne ou une moins bonne. À quoi on peut s'attendre, là? Parce que c'est ce qu'on va vivre cette semaine, là, à peu près.
Okay. Voilà, donc on a d'un côté Raphaël Warnock, qui est le sénateur sortant, mais qui était venu combler une fin de mandat là, au Sénat. Il est confronté aux républicains controversés, dont on a maintes fois souligné les faiblesses, mais qui ratissent encore assez large. Herschel Walker, l'ancienne gloire de football, mais qui, je l'ai déjà dit sans m'en cacher, est la caricature de ce que devrait être un mauvais candidat habituellement. Probablement, puis là je m'avance un peu, les républicains seraient déjà au Sénat pour ce siège-là, s'ils avaient eu un candidat plus fort que Herschel Walker. Deux choses que je trouvais plus intéressantes au moment où on se parle. Un, ça risque de se régler, encore une fois, dans un mouchoir de poche. Quand on observe l'ensemble des sondages, puis dans les élections de mi-mandat, les maisons de sondage ont plutôt bien performé dans l'ensemble. Ce qu'on regarde, c'est l'avance la plus forte qu'on reconnaît au démocrate Warnock, c'est entre 3 et 4 % approximativement. Quand on regarde la marge d'erreur, ça peut aussi bien aller d'un côté que de l'autre. Et il y a un sondage qui donnait Herschel Walker gagnant par 1 %. Une fois de plus, on se répète, mais on le fait souvent pendant ces élections de mi-mandat, chaque vote compte. Et à quel point chaque vote compte-t-il? Les démocrates actuellement courtisent deux électorats auxquels on ne pense pas spontanément quand on s'emploie à décortiquer l'ensemble des circonscriptions et on dit voici où ça va se jouer. On est approché maintenant les Asiatiques et même les descendants des immigrants finalement de l'Inde qui vivent maintenant aux États-Unis. Alors, on en est rendu à les courtiser, à organiser des rassemblements où, grosso modo, c'est on vous écoute, on veut vos arguments, puis on va penser à vous, oui.
Les Asiatiques, Américains asiatiques, donc de descendance souvent japonaise ou vietnamienne ou chinoise, en Géorgie, vraiment?
Voilà, ben écoute, quand je dis chaque, j'ai eu la même réaction que toi. Quand j'ai commencé à regarder, quand j'ai commencé à consulter mes alertes, ça a été, on parle vraiment d'Asiatique. En Géorgie, habituellement, on va vers, bien sûr, on pense au vote de la communauté afro-américaine qui est très important, qui peut faire la différence. On va penser aux hispanophones aussi, qui est une clientèle qu'on se partage ou qu'on s'arrache, républicains et démocrates, à l'échelle du pays. Mais c'est dire où on en est rendu, à quel point on ratisse sur le terrain pour obtenir chaque vote possible. Donc, c'est pour les maniaques de politique comme toi et moi. Écoute, c'est haletant jusqu'à la fin, ces élections de mi-mandat. Ce siège-là, on le sait, bien sûr, il peut créer une nouvelle égalité au Sénat. Si les Républicains l'emportent, on sera à 50-50, avec Mme Harris qui viendra pour plusieurs votes séparer le gagnant du perdant. Sinon, pour les démocrates, ben, c'est intéressant. Ça change la donne aussi avec leurs propres sénateurs qui parfois sont un peu plus rebelles. On peut penser à M. Manchin ou à Ram Sinema. Ça donnerait une majorité de 51-49 aux démocrates.
Donner de la marge de manœuvre un peu à Joe Biden. Ou sinon, donner, et les mauvaises langues diraient, donner à Mme Harris une raison d'exister. Parce qu'à date, là, ça va, c'est pas exactement génial, sa carrière. Terminons, Luc, parlons de Julian Assange. C'est ce personnage qui avait coulé de l'information, ça avait fait les nouvelles. Là, la grande question, c'est est-ce qu'il a commis un crime ou pas? Parce qu'il est pas juste recherché un peu, il l'est beaucoup, il se cache à l'étranger depuis tout ce temps-là. Alors, parle-nous de cette grande question qui se débat encore, là.
Voilà, ben j'y ai pensé ce matin parce que il y a 5 grands journaux, puis on parle du New York Times aux États-Unis, puis on parle de 4 journaux européens qui ont publié d'un commun accord, contenu similaire partout, une défense, si on veut, de Julian Assange. C'est-à-dire que ce qu'on dit, grosso modo, c'est publier de l'information, ce n'est pas criminel. To publish is not criminal. Et ce qu'on dit, c'est que Julian Assange, au fur et à mesure qu'il progresse avec WikiLeaks, il a fourni de l'information qui vient servir, entre guillemets, la cause de la vérité. Donc, on le présente, Julian Assange, comme un représentant des médias, puis on dit, si vous le punissez, lui, ben c'est l'ensemble du monde médiatique ou l'ensemble de l'information qui risque d'être pénalisé. J'ai bien lu ce message-là, puis tous les deux, on a couvert suffisamment d'histoire américaine et politique américaine pour savoir que des lanceurs d'alerte, effectivement, ça a été très important dans l'histoire. Un journal comme le New York Times ou le Washington Post va le reconnaître sans mal quand on parle du Watergate, par exemple. Mais je trouve quand même qu'on fait la part belle à Julian Assange et qu'on oublie que si Assange est un journaliste ou si certains le considèrent comme un journaliste, c'est également un activiste et que cette information-là qu'il a récupérée, il y a comme, j'ai envie de te dire, deux Julian Assange. Celui qui est autour de 2009-2010 qui va obtenir de l'information, mais celui qui, autour de 2016, oriente cette information. Et si, effectivement, il sert la vérité, je trouve qu'il sert la vérité essentiellement contre les démocraties et moins contre les régimes autoritaires. Et je sais que tu as couvert ça, puis tu me corrigeras si nécessaire. Je ne l'ai pas vu couler beaucoup d'informations sur la Russie, par exemple, alors qu'il ne s'est pas gêné pour interférer contre Hillary Clinton lors de la campagne 2016.
Mais tu poses là, je pense que c'est un jugement très sage, Luc. Moi, je suis très réticent à faire de Julian Assange un héros national ou international, parce que voici ce qui m'inquiète, c'est, moi, je trouve dangereux de se faire justice soi-même. C'est de dire, au nom de quelque chose que moi, je considère juste et bon, puis là, évidemment, ça va changer selon la personne qui posera ce jugement-là, je peux me foutre des lois qui m'entourent. Et ça, c'est le début de l'anarchie, c'est la fin de l'institution. Alors, je serais plus admiratif de M. Assange s'il avait commis son geste en toute connaissance de cause et qu'il avait décidé de faire face aux conséquences du système de justice qui était celui qui le régissait à ce moment-là. Là, je serais plus admiratif de son geste.
Voilà. Bien hâte de voir aussi comment l'administration américaine va gérer ça. Est-ce que les Américains ont juridiction sur la planète? C'est un autre volet qu'on pourrait aborder dans ce contexte-là. Sinon, mais pour M. Assange, peut-être qu'il espérait que ce soit M. Trump qui était là, même si à l'époque, le secrétaire d'État Pompeo n'avait pas été tendre. De l'autre côté, il est confronté à l'administration Biden, puis à Merrick Garland, qui a été nommé par Joe Biden. Quand on sait qu'aux États-Unis, M. Biden puis M. Garland marchent aussi sur des œufs dans ce dossier-là, parce que les démocrates ont encore, en travers de la gorge, le rôle de Julian Assange dans la défaite, du moins que c'est ce que certains affirmaient, dans la défaite de Mme Clinton. Donc, ça risque d'être, là aussi, assez délicat de manœuvrer dans ce dossier-là.
C'est ça. Il faut jamais juger ces choses-là sur la base de « est-ce que ça m'aide, moi, pour mon agenda? » Luc Laliberté, voilà. Merci beaucoup de ce tour d'horizon. On se reparle demain. Au plaisir.
Une bonne fin de journée, Guillaume.